sur 103,5.
Lorsqu'une personne reçoit des menaces ou des injures, soit par SMS ou par appel téléphonique, que doit-il faire? Vous vous posez cette question et peut-être que vous avez été victime, vous ne savez pas que faire. Aujourd'hui, on va vous fixer puisque nous en parlons dans notre chronique consacrée à Vocation Foncière, car plusieurs personnes sont confrontées à ce problème. Mais dans bien des cas, elles ne savent pas toujours que faire. On va vous fixer aujourd'hui puisque Maître Dominique Camoando est déjà là. Il pourra répondre à toutes vos questions, mais à condition que vous puissiez réagir à temps au 081-070-2050. Nongoy, bonjour.
Bonjour Nicole, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Je mettrai ma main à couper que vous avez été victime.
Jamais.
Ah. Parce que beaucoup vont se dire peut-être que vous avez été victime,
non,
on vous
jamais.
A menacé.
Jamais de la
non.
vie.
Mais il se fait qu'il y a quand même des gens qui ont été menacés, raison pour laquelle on en parle aujourd'hui dans cette émission. Hein, non. Uh-huh. Alors lorsque vous recevez des menaces ou des injures, soit par SMS ou par un appel téléphonique, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Bien Nicole, lorsqu'une personne reçoit par son téléphone des menaces ou des injures, elle a le droit de porter plainte contre l'inconnu devant les instances judiciaires. Ça peut être donc la police ou le parquet.
Ça c'est connu, mais dans bien des cas on ne le fait pas. Pourquoi? On le saura aujourd'hui. Alors est-ce que vous avez pu rencontrer une personne qui a déjà été menacée, autrement dit qui a reçu des menaces par téléphone et comment a-t-il réagi concrètement?
Oui Nicole, nous avons rencontré plusieurs personnes qui ont reconnu avoir reçu plusieurs fois des menaces ou des injures par téléphone. Certaines d'entre elles nous ont confié qu'elles ont fait des arrangements à l'amiable pour mettre fin à cela. Cependant, il y a des personnes qui ont connu des problèmes dans leur ménage suite à un coup de fil anonyme. C'est le cas de Madame Noëlla Kabongo. Elle nous en parle suivant.
Moi, personnellement, je n'ai jamais reçu un appel, des menaces, mais par contre, c'est mon mari qui a déjà connu ce genre de menaces par téléphone. Il y a une dame qui l'avait appelée en disant que moi, je sortais avec le mari de cette dame. Ça a causé des problèmes au sein de mon foyer. Mon mari m'a traduit en justice pour infidélité. Nous ne sommes plus ensemble.
Quelle démarche avez-vous faite pour savoir qui avait fait ce coup?
Quand mon mari a annoncé cette nouvelle, moi je me suis dit non, mon mari est en train de me créer encore des problèmes. Il a commencé les enquêtes pour voir réellement qui pouvait faire ça. Parce que la dame qui l'avait appelée avait masqué les numéros. Heureusement, mon mari avait retenu le jour, la date et l'heure à laquelle on l'avait appelée. Arrivé en justice, quand on a démasqué les numéros, on a fait les enquêtes, on a compris que c'était le coup de ma belle-sœur et sa copine. Ça m'a causé le divorce. Aujourd'hui, je suis seule avec mes trois enfants. Je suis victime. Mon mari n'habite pas avec moi.
Oh là là, c'est vraiment un témoignage. Oui, ben, j'espère que, puisqu'on en parle aujourd'hui, que les deux vont se réconcilier, hein, Nounou, parce que bon, elle a été victime. Elle a reçu des menaces. Et c'était pas elle directement, mais c'était plutôt son mari. Hein.
C'était quelqu'un qui avait appelé son mari. Mmh. Une dame qui appelait son mari pour dire à ce monsieur que sa femme sortait avec son mari.
Mmh. Alors que c'était archi faux parce qu'on
c'était
a su ça après.
C'était un coup monté, mais l'homme avait déjà pris sa décision.
J'espère que la vérité finira par triompher. Hein. N'est-ce pas? On va évoluer parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parfois victimes de cela. Alors, est-ce que les personnes que vous avez eu à rencontrer savent ce qu'elles doivent faire concrètement lorsqu'elles se retrouvent dans cette situation?
Nicole, il faut reconnaître que très peu de personnes savent ce qu'il faut faire quand elles reçoivent des menaces par téléphone. Je vous propose d'écouter.
Bon, si vous avez une menace par SMS ou bien par téléphone, vous avez une démarche.
Plainte contre un connu. Après, si le policier m'a envoyé, et là, on a envoyé ça là. Ou bien, il a recouru à l'ONG, à droit de l'homme, et ça peut être un peu comme ça.
Ngai espé na zo ba menace.
Ba lobi na ngai ezaki le mewa kabi. Loko ezali mewa kabi moyena la ndango ezate.
Voilà, donc c'est pour dire que c'est vraiment une réalité. Partout au Congo, on a eu quelques réactions des habitants de la ville de Kinshasa. J'espère que vous aussi, là où vous nous suivez, si vous avez déjà eu des menaces, reçu des menaces, en tout cas n'hésitez pas à témoigner hein, au 081 070 2050. Peut-être que vous avez eu à suivre une démarche. Parlez-nous-en, dites-nous concrètement qu'est-ce que vous avez eu à faire. C'est bien de partager le débat avec nous. Alors lorsqu'on reçoit des menaces, nous, par téléphone, pourquoi on ne va pas se présenter d'abord à l'entreprise où on est abonné?
Nicole, on ne peut pas se présenter à l'entreprise où on est abonné parce que la loi sur la télécommunication interdit à ces entreprises de divulguer les identités de leurs clients. La même loi dit que les correspondances doivent être secrètes. Je vous propose d'écouter tour à tour le conseiller juridique de Celtel et le superviseur chargé des médias de Congo Chine Telecom.
Lorsque un client nous vient prétexter de quelques menaces ou des injures qu'il aurait reçues de la part d'un de nos abonnés, nous les dirigeons généralement devant les institutions judiciaires pour porter plainte contre les auteurs de ces actes. Nous ne pouvons pas divulguer à un autre client ou à une personne tierce les identités de notre clientèle. La loi sur la télécommunication impose à tout opérateur de télécommunication l'obligation au secret des correspondances de nos clients. La loi exige que le procureur général de la République nous saisisse par voie de réquisition.
Lorsque nous recevons un tel problème, premièrement nous demandons à cet abonné de voir un service de la police le plus proche. Et c'est à partir d'une plainte déposée à la police par cet abonné, la police viendra vers Congo Chine Telecom avec une note de réquisition d'informations sur la personne qui a été agressée. Et en ce moment-là, la société livrera les informations à la police. Il y a des informations dont nous ne sommes pas en mesure de donner pour question de sécurité. Tous deux sont abonnés de Congo Chine Telecom. Celui qui a agressé et celui qui agresse, on protège les deux. En même temps, on essaie de regarder la taille du problème.
Voilà, donc là, on a eu à suivre des responsables au niveau de Celtel et puis Congo Chine Telecom, Nounou. Mais une question qui me vient à l'esprit, parce que là, le responsable de Congo Chine Telecom nous a dit la démarche à suivre quand on est victime. On commence d'abord par aller porter plainte au niveau de la police. Et c'est seulement la police qui peut venir maintenant se renseigner.
Ils peuvent donner le relevé des appels qu'à la police.
Seulement à la police.
Seulement à la police.
Mais Celtel Congo, c'est
la même chose.
La même chose aussi. Ouais. Hein. Mais est-ce qu'ils ont déjà eu des cas, des gens qui ont été victimes?
Ils ont des cas tous les jours. Beaucoup de personnes vont se plaindre. C'est chaque jour qu'il y a des cas.
Alors comment ça se passe devant les instances judiciaires?
Nicole, nous sommes allés à l'inspection provinciale de Kinshasa, savoir comment ça se passait. Le major Kaboué, conseiller juridique de l'inspecteur provincial de Kinshasa, nous dit comment il procède au niveau de l'IPK lorsque quelqu'un vient porter plainte pour ce genre de problème. Suivant.
En principe, quand vous êtes menacé, soit par CMS, vous pouvez prélever le numéro qui vous a appelé. Vous venez saisir la police, soit par plainte écrite ou plainte orale. Nous avons le privilège d'aller au niveau de la société. Si par exemple c'est Celtel ou Vodacom, nous prélevons le numéro sur place. À l'issue seulement de ça que nous pouvons maintenant interpeller le monsieur ou la dame qui vous a menacé.
Il arrive aussi que vous arrêtez des personnes qui font ce genre de coups?
Oui, effectivement. Nous avons beaucoup de cas. La première phase, c'est que quand on interpelle le monsieur, on prend sa déposition. Et c'est seulement à l'issue de la déposition. S'il s'avérait que les faits pour lesquels il est interpellé s'avéraient vrais, nous avons au niveau de la police 48 heures. Après 48 heures, on le défait au niveau du parquet, quitte au parquet de faire la suite.
Quitte au parquet de faire la suite, est-ce que la suite est correctement faite? La question s'adresse directement à Maître Dominique Kamwando qui est là et qui va nous fixer. Si vous avez déjà eu affaire à suivre en tout cas cette procédure, pourquoi ne pas partager cela aujourd'hui avec nous à travers des SMS et nous dire concrètement quelles difficultés vous avez eu à rencontrer? Le numéro c'est 081 070 2050. On va se terminer par là, Nounou, parce qu'on nous dit qu'il faut aller maintenant au niveau du tribunal. Alors au niveau du tribunal, comment ça se passe concrètement?
Nicole, s'il s'avère que les menaces proviennent effectivement de la personne poursuivie, il y a des sanctions qui sont prévues. Madame Mujinga, présidente du tribunal de grande instance de Matete, nous donne des plus amples détails.
La personne peut être poursuivie s'il s'avérait que les menaces provenaient effectivement d'elle. Le problème, c'est au niveau des preuves. Quand il s'agit d'un appel qui provient d'une cabine téléphonique qui est publique, il est difficile de pouvoir établir des preuves. La personne menacée peut évidemment reconnaître la voix, mais encore faut-il qu'elle puisse y prouver devant le juge que ce coup de fil provenait de la personne qui est traduite devant la justice. Et s'il s'avérait effectivement que la menace provenait de la personne qui est poursuivie, la loi prévoit une sanction de 8 jours à 1 an de servitude pénale ou d'une amende.
Voilà, 8 jours à 1 an de servitude pénale. Madame Mojinga dit une chose importante, c'est que lorsqu'une personne menace à partir
d'une cabine téléphonique publique,
c'est ça, on n'arrive pas à cibler la personne en question parce que c'est une cabine publique. Mais bon, moi je me dis, pourquoi aussi les responsables de ces cabines permettraient qu'on se serve de leur téléphone pour menacer les gens?
Mais Nicole, il faut dire que c'est difficile, les responsables de cabine vendent la communication, ils sont pas là pour surveiller qu'est-ce que vous racontez et tout
oui,
ça.
Oui, c'est vrai, mais bon, ils sont pas là aussi pour accepter qu'on dise n'importe quoi au téléphone, je crois.
Mais souvent quand on appelle, on se retire dans un coin.
Pas toujours,
pas toujours, à l'extérieur.
Pas toujours, hein, non. Allez, partagez ce débat avec nous, chers auditeurs de Radio Capi, vous qui nous suivez partout au Congo et même au-delà de la RDC, hein, sur www.radiocapi.net. J'espère que vous serez très nombreux à réagir dans cette émission. Onongoy, merci beaucoup de nous avoir présenté ce sujet plutôt, je dirais, un sujet particulier, hein, aujourd'hui. Hein.
Merci, Nicole.
Allez, à la prochaine.
Au Capi, pour que la paix nous appartiendrait de Dieu.
Voilà, je crois qu'on a des petits problèmes techniques avec Jean-Claude Sella. Ça commence bien. Ça va certainement trouver des solutions d'ici là. Allez, on va retrouver Maître Dominique Camandou, notre invité déjà. Mais avant, je crois qu'on va faire une petite pause musicale puisqu'on a eu à beaucoup parler de quelques minutes. Et puis juste après, on se retrouve avec lui. Voilà, ça c'était pour vous mettre dans l'ambiance afin que vous puissiez déjà envoyer vos SMS hein, dans cette émission pour poser vos questions et nous dire concrètement si vous avez été victime ou pas d'une menace hein, par téléphone. On va donc recevoir Maître Dominique maintenant. Maître Dominique, bonjour.
Bonjour Nicole.
Voilà, on aborde avec vous un sujet plutôt intéressant, le recours juridique en cas de menace par téléphone. Est-ce que déjà, pour commencer, vous avez déjà eu à résoudre ce genre de problème?
Merci beaucoup Nicole, je crois que j'ai déjà... l'infraction des menaces, pour préciser, c'est une infraction prévue par le Code pénal congolais, livre 2, précisément aux articles 159 et 160.
C'est récent ça?
Non, la loi prévoit l'infraction des menaces depuis toujours.
Ah bon?
Oui. Dans ce cas, le téléphone est comme un support qui est utilisé pour menacer. Mais l'infraction des menaces est prévue par la loi. Indépendamment
la loi,
du support utilisé, qui peut être le téléphone ou un écrit ou autre chose.
Donc l'infraction par téléphone est prévue dans la loi congolaise?
Non, la loi définit la menace comme une parole, un geste ou un écrit dont on se sert pour manifester sa colère ou son ressentiment à quelqu'un et pour lui faire craindre une menace ou pour lui faire craindre un fait grave voilà, contre sa personne.
Ce n'est pas nécessairement par téléphone. Hein?
Ce n'est pas nécessairement par téléphone. La loi ne parle pas de téléphone.
Voilà.
La loi parle d'une parole, un geste ou un écrit.
C'était bien de préciser ça parce que nous savons que sur un certain temps, le téléphone portable, en tout cas, n'était pas une réalité ici au Congo. Hein? Il faut le dire.
Effectivement,
hein?
Mais cela ne veut pas dire que quand on menace par téléphone, on échappe à la loi parce que la loi parle de la parole. Et à travers le téléphone, c'est la parole qu'on fait parvenir à la personne.
Mmh. Alors vous avez suivi tout à l'heure les témoignages des auditeurs, des gens. Il y en a beaucoup quand même qui ont eu à être victimes de cela. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Parlons par exemple de la première personne qui a été victime. Elle a reçu des menaces. En fait, c'était pas elle directement, mais c'était par le canal de son mari. Il y a eu mensonge. Et à cause de cela, les deux, donc le couple a fini par divorcer. Selon vous, quelle est la procédure à suivre pour cette femme si elle veut, comme qui dirait, avoir gain de cause?
En principe, dans ce cas, il ne s'agit pas de la menace telle que la menace est définie par la loi.
Mmh.
Il s'agit d'un fait qui a été dénoncé. La loi punit la dénonciation calomnieuse lorsque les faits mensongers sont portés à la connaissance d'une autorité ou d'une personne qui a une ascendance sur une autre afin d'amener à une sanction ou à une mesure contre la personne. Dans ces cas-là, lorsqu'on est victime, on peut se plaindre devant le parquet ou la police contre la personne pour que les enquêtes soient menées et lorsque les faits sont établis, on va saisir les juges.
Mais vous comprenez un peu dans quelle situation on se retrouve. Une belle-sœur qui raconte des histoires à son frère, dont, au sujet de sa belle-sœur, donc de la femme de son frère, et à cause de cela, il y a divorce. Est-ce qu'il y a moyen de se rattraper en fonction de cela?
Se rattraper, c'est que si on arrive à établir que les faits tels qu'allégués ne sont pas corrects, si la procédure de conciliation, la procédure du divorce est encore en cours, pendant les chambres de conciliation, le juge peut arriver à concilier les deux parties.
Mais la personne qui a raconté des propos mensongers, est-ce que cette personne-là ne peut pas être punie devant la loi?
En principe, la loi permet que lorsqu'on a subi un préjudice du fait d'une personne tierce, on peut saisir les juges pour demander réparation. Dans ces cas-là, mais le fait de raconter comme ça des propos mensongers, il y a le cas de la dénonciation calomnieuse qui est une infraction qui peut être sanctionnée par la loi.
Ça peut être sanctionné par la loi, mais à condition de porter plainte.
Oui, effectivement, à condition de saisir la justice et à condition que l'on mène l'instruction et que les faits soient établis.
Alors parlons maintenant des menaces proprement dites à Maître Dominique, des SMS qu'on envoie comme ça par une personne inconnue et vous ne savez pas comment faire. C'est ça qui est compliqué.
Effectivement, lorsqu'on reçoit une menace de la part d'une personne inconnue, c'est le cas par exemple qui arrive lorsque on est victime d'un vol la nuit et qu'on se réveille, on trouve que ses biens sont partis, on ne connaît pas l'auteur de l'infraction. Dans ces cas, on peut se plaindre, faire une plainte contre inconnu. Cela va donner lieu à des enquêtes pour arriver à déterminer la personne qui a commis l'infraction.
Mais oui, mais dans des cas pareils, parce qu'il faut être concret, Maître Dominique, vous possédez un portable et un jour, vous vous réveillez, vous avez une menace, un SMS où on vous dit, par exemple, on vous menace de mort, vous ne connaissez pas ce numéro, vous ne savez pas comment vous pouvez retrouver cette personne, vous ne savez pas que faire.
Oui, devant de pareilles situations, la personne qui est victime doit en principe retenir le numéro et l'heure de l'appel. Et comme ça, ce sont des éléments qu'il va fournir dans sa plainte en explicitant tel genre de menaces reçues.
Vous avez suivi tout à l'heure ce que la police nous a dit, les responsables de deux entreprises, Chine Télécom et Soltel. Dans bien des cas, les personnes victimes ne viennent pas directement chez elles.
La loi ne l'autorise pas parce que la loi protège la vie privée d'une personne. Les responsables des entreprises de télécommunications ne sont pas là pour violer les vies privées des gens et donner toute information à qui veut bien le recevoir. C'est pour cela que la loi prévoit des procédures qui nécessitent qu'il y ait une réquisition d'informations adressée à l'entreprise de télécommunications dans le cadre d'un dossier judiciaire, dans le cadre de l'enquête. Et à ce moment-là, les entreprises de télécommunications sont obligées de donner l'information.
Dans bien des cas, c'est difficile parce que nous savons que la procédure judiciaire, elle est longue. La démarche, elle est longue. Vous devez d'abord aller au niveau de la police et c'est ensuite à la police de faire la démarche pour vous au niveau de l'entreprise de communication. Le temps qu'on retrouve votre nom et le numéro, ça demande des moyens parce que vous devez d'abord commencer par débourser des fonds au niveau de la police. Puis ensuite, le temps que la police aille au niveau de l'entreprise, la police vous demande encore de débourser des fonds pour ces démarches-là. Et enfin, au niveau de la justice, vous voyez un peu tout ce que ça prend comme temps, Maître Dominique.
Non.
Il faut être réaliste.
Le temps peut servir à ce que l'on découvre la vérité.
Et les moyens financiers.
On doit mener l'enquête minutieusement. On ne peut pas aller à la hâte parce qu'on peut aboutir aussi à des erreurs judiciaires et sanctionner des personnes qui ne sont pas auteurs de l'infraction. Dans ces cas-là, si c'est nécessaire, que l'on prenne le temps qu'il faut pour mener minutieusement des enquêtes.
Et ça coûte cher, hein?
Bon, cher, je ne sais pas combien on exige à la police, mais en principe, au niveau du parquet, le dépôt d'une plainte n'est pas payant.
C'est gratuit?
En principe, quand on va au parquet pour déposer une plainte, même au niveau de la police, pour déposer une plainte selon la loi, il n'y a pas de frais à payer.
Maître de
Parce que quand on porte plainte, oui. C'est-à-dire on dénonce un fait qui a troublé l'ordre public.
Oui,
et dans ces cas-là, je ne vois pas comment on peut exiger de l'argent. La loi ne le prévoit pas.
Mais il faut être réaliste, Maître de Minuit. On va vous dire, Madé Swabana, c'est souvent le mot qu'on entend. Hein. Madé Swabana, vous déposez la plainte, mais on vous regarde droit dans les yeux. Comment on va faire le travail s'il n'y a pas les Madé Swabana? Vous avez déjà entendu
ça. Là, nous entrons dans une autre réalité qui n'est pas légale. Et notre présence ici, c'est plutôt de pouvoir expliquer et montrer aux auditeurs que prévoit la loi en la matière.
La loi existe, hein?
La loi existe et elle doit être respectée par tous.
Mais c'est pas toujours ça. Parce qu'on a quand même quelques témoignages des gens qui nous ont dit qu'ils ont eu à suivre cette démarche-là. Et dans bien des cas, ça leur a exigé beaucoup de moyens. Alors je dis bon nombre se disent, bon, la loi existe, mais elle n'est pas appliquée concrètement sur terrain.
Bon, il y a des réalités telles que la plupart de nos structures, il y a des structures qui fonctionnent sans moyens. Et dans ces cas-là, lorsqu'on confie un dossier à un inspecteur à qui on remet une réquisition d'informations, il doit se déplacer et il ne va pas débrousser de sa poche. Et le plus souvent, ces personnes se rabattent sur les justiciables qui se sont plaints pour pouvoir prendre en charge ces faits qui sont nécessaires pour les déplacements et autres choses.
On va voir comment les auditeurs réagissent grâce à Belinda Boussouma, qui est là justement pour prendre tous les SMS, hein, des auditeurs de Radio Capi. On va lire directement, Maître Dominique, si vous le permettez.
Oui.
Nous avons par exemple la réaction de Cyril depuis Kananga, qui nous dit « Que faire si la personne est en dehors de la ville que vous vivez, donc où vous habitez hein ?» Je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Que faire
en principe, dans ce cas, si la personne est en dehors de la ville, si les autorités judiciaires sont saisies, il y a une procédure qu'on appelle la commission rogatoire.
Mm.
L'autorité judiciaire du lieu peut saisir l'autorité judiciaire de la ville où se trouve la personne pour que la personne puisse être recherchée et qu'on puisse mettre la main sur elle.
Voilà encore une autre procédure hein,
ouais.
Qui demande aussi des moyens financiers quand même, Maître Dominique. Alors j'habite Kikwit, nous dit un autre auditeur. J'ai été un jour insulté par quelqu'un de Lubumbashi. Il s'était trompé de numéro de téléphone, a-t-il dit après. Hein. Ça, c'est M. Vincent Moulombé qui nous fait son petit témoignage. Il y a 2 ans, je recevais des menaces de mort d'un monsieur prétendant que j'étais étudiant infidèle, je crois. Alors, à partir de cette plainte, j'ai été au niveau de la police. C'était quelque chose que mon mari avait fait, dit-il ou dit-elle. J'étais vraiment déçue, alors j'ai demandé le divorce et je l'ai obtenu. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de problèmes comme ça.
Effectivement, et qui amènent parfois à des conséquences désagréables, comme les cas que l'on vient de suivre. Bon,
oui.
Moi, ce n'est pas une question, mais c'est quelqu'un qui donne quelque chose qu'il a vécu.
Voilà. Alors avec le système de vente des SMS sans contrat, comment vous trouvez le coupable? C'est chez vous depuis Kinshasa qui vous pose la question à partir de l'UMT, Maître Dominique.
Effectivement, ça c'est une question difficile. Je crois que Mme Mouginga a même parlé du cas des personnes qui appellent à partir des cabines publiques. Il y a des cas où c'est difficile de retrouver le coupable et d'avoir la preuve. Et pour ces cas-là, c'est difficile. Et en matière de droit, quand il y a doute, c'est les prévenus ou la personne poursuivie qui en bénéficie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner si on n'a pas nécessairement identifié la personne poursuivie.
Mais il faut retenir qu'il n'y a pas que des menaces qui sont faites hein, à travers les SMS, hein, n'est-ce pas? Parce que là, Jean Coolité de Gualoité nous dit « Depuis l'Équateur, j'étais victime. » Bon, il dit qu'il a été victime. Un certain samedi, en voyant dans mon appareil « Je t'aime beaucoup ma chérie », mais je lui ai répondu, donc je l'ai appelé. La personne n'a pas répondu. Bon, on ne peut pas dire que là, il a été vraiment victime.
Tout comme quelqu'un peut aussi se tromper sur un numéro, voulant envoyer un message à quelqu'un d'autre et ça tombe sur une autre personne, ça c'est une erreur. Hein.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver aussi, mais si c'est un fait qui a été commis sciemment pour pouvoir causer du tort à une personne, ça on peut recourir à la justice pour demander réparation, si on a les preuves et qu'on arrive à identifier clairement la personne.
On peut réellement avoir réparation ici au Congo, Maître Dominique Amandou.
Effectivement, on peut avoir réparation si on a des preuves et qu'il y a des liens de causalité entre les faits. Après l'examen du dossier, les juges arrivent à...
Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent depuis...
À condamner.
0, 7 ans, 25 ans, c'est bien, on sait leur dire si réellement il y a des cas qu'on a pu suivre. Il y a des gens qui ont été dédommagés. Est-ce qu'il y en a?
Personnellement, je n'ai pas encore eu un dossier du genre. J'ai eu un dossier de menace, mais ce n'était pas par téléphone. C'était des menaces verbales de deux personnes, l'une en face de l'autre, et pour lesquelles le tribunal a condamné la personne aussi bien à la sanction pénale qu'au paiement des dommages et intérêts. Ça, c'est un cas que je connais, mais des cas de menaces par téléphone, personnellement, je n'ai pas encore...
Le tribunal a condamné pour dommages et intérêts.
Pour réparation du préjudice. Ouais. Tu vois, en matière... pénal, quand on saisit les juges, on demande la réparation et les juges prennent des sanctions pénales pour rétablir l'ordre public violé.
Et c'était quoi finalement la sanction?
La personne était condamnée à 3 mois de servitude pénale et au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de $300.
Pour des menaces verbales.
Oui, c'était des menaces assez graves, c'est ça qui menaçait, des menaces de mort.
Voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Alors, est-il possible d'avoir la voix comme preuve matérielle, en plus du numéro? Ça, c'est Dr Bill Kabbalah qui vous pose la question depuis Kinshasa.
Bon, la voix, mais c'est difficile aussi de déterminer que telle voix est réellement de telle personne. Hein. Je crois que c'est un peu compliqué.
C'est difficile.
C'est difficile d'établir la responsabilité ou la preuve à partir de la voix seulement.
Mais il y a quand même des téléphones qui peuvent enregistrer directement la voix d'une personne.
Effectivement, on peut enregistrer la voix d'une personne, mais pour établir que cette voix est réellement des Nicole ou des Nounou, là c'est difficile. Hein.
Alors une ancienne copine nous dit à notre auditeur, m'a lancé des injures au téléphone avec un numéro connu par SMS. Je l'ai vite reconnu à travers le contenu. Que dois-je faire? C'est Fulgence qui vous pose la question.
Effectivement, on revient à la même question. Si la personne a reconnu la personne à partir du contenu, il peut saisir le parquet, expliquer les faits, expliquer les relations que les deux personnes ont et le parquet saura comment instruire, comment orienter les dossiers pour pouvoir arriver à établir effectivement s'il s'agit de cette personne-là ou de telle autre. Et si le parquet arrive à établir qu'il s'agit de cette personne-là, on va traduire alors la personne devant les juges.
Mais des fois, le parquet arrive à le faire.
Bon, je n'ai pas encore eu personnellement des cas comme ça, mais le parquet est bien outillé pour ce faire.
On ira peut-être suivre le dossier hein, au niveau du parquet avec Mounoungoy pour voir concrètement si on arrive quand même
à identifier
certaines personnes.
Le moteur, ok.
Surtout ceux qui viennent là.
Je crois que c'est là qu'il y a le plus grand problème.
Alors on va terminer par là parce qu'il y a eu deux réactions. Vraiment, les réactions étaient nombreuses. Belinda Bossouma, permettez que nous puissions lire 3 dernières réactions. Un jour, j'ai eu l'appel, soi-disant que la gosse... Bon, je crois qu'il voulait parler de l'enfant, hein. De l'enfant de mon épouse, appartenait de mon homme à ma femme. Elle a accepté, mais a refusé de citer le mari. J'ai refoulé la femme. Bon, c'est dommage, j'ai pas bien compris le témoignage de cette personne. Je sais pas si vous avez compris son témoignage.
C'est comme s'il veut dire que sa femme avait eu un enfant qui n'était pas de lui, une grossesse ou un enfant qui n'était pas de lui, qui était d'une autre personne et qu'il a posé, il a voulu en savoir plus auprès de sa femme.
Qui n'a pas voulu lui dire quoi que ce soit. Donc c'est un témoignage, je crois que ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons.
Ce n'est pas une question.
Non, c'est juste un témoignage. Bonjour Nicole, nous dit Christian, depuis Colosi, j'ai été menacée par un SMS un jour. J'ai contacté le service compétent, il n'a jamais eu de suite, dit-il. Quel service il a contacté concrètement?
C'est ça aussi le problème, il parle d'un service compétent. Si il est allé directement au niveau de l'entreprise de télécommunications. C'est normal qu'on ne lui donne pas la réponse ou les éléments d'information, mais il doit en principe aller se plaindre soit à la police, soit au parquet.
Alors, on termine par les trois réactions qui viennent d'arriver rapidement, maître. Je suis Sanjo Tongolo Aïsiro. Si celui qui a commis cette infraction est très loin, quelle est la procédure pour l'arrêter? Je suis Claude Kaisama depuis Siro. Comment le juge saura que l'appel a été une injure? Et puis, comment retrouver le numéro de la personne qui utilise un téléphone masqué, c'est, je crois qu'un numéro caché. Hein. C'est Pichu Mumba qui vous pose la question. Donc, 3 questions rapidement, maître, pour répondre.
En principe, lorsque la personne est dans une autre ville, j'ai dit, on peut saisir les parquets dans la ville où on vit et le parquet peut faire une commission rogatoire au parquet qui est dans la ville où se trouve la personne recherchée. À ce moment-là, on peut ouvrir un dossier et rechercher l'intéressé. L'autre question est de savoir comment retrouver la personne lorsque le numéro est masqué.
Oui.
Le numéro est masqué sur votre téléphone, mais à partir de l'entreprise de télécommunications, on peut arriver à découvrir
le
numéro.
Vous ne pouvez pas aller au niveau de l'entreprise.
Non, si vous allez à la police ou au parquet, la procédure sera suivie. Et dans ces cas-là, on peut retrouver la personne.
Et rapidement pour le dernier?
Pour le dernier, quand il s'agit de l'injure, on ne peut plus, si la communication n'a pas été enregistrée, c'est difficile, mais on peut dire au juge que j'ai été victime des injures. Dans ces cas-là, on essaie d'identifier la personne et de les poursuivre selon la loi aussi, parce que même pour les cas des injures, la loi prévoit des peines. Mais bien sûr que pour l'injure, il y a l'injure publique où il faut un caractère de publicité. Et ici, il s'agit de l'injure non publique où la loi prévoit seulement une peine qui peut aller à 8 jours maximum de prison.
Maître Dominique, on va s'arrêter par là parce qu'on a beaucoup de sujets aujourd'hui, en tout cas dans cette émission. Je remercie tous ceux qui ont eu à participer à cette émission pour témoigner et donner leur réaction, leur avis à ce sujet. Je vous remercie aussi, Maître Dominique Camoni.
Merci, Nicole.
Et à la prochaine.
Merci.